je suis neurologue hospitalier à la Pitié-Salpêtrière, qui était un hôpital qui était au plein cœur de cette crise, et dont l'activité s'est radicalement transformée en quelques semaines, hein, entre la fin du mois de février et le début du mois de mars. On a arrêté tout ce qu'on faisait habituellement pour passer à d'autres activités qui étaient complètement orientées sur la prise en charge des patients Covid. Et très inévitablement, ce vers quoi on est allé, c'est être utile, et être utile en faisant ce qu'on savait faire, c'est-à-dire soigner. Et assez vite est apparue l'idée que y avait probablement d'autres manières d'être utile, qui étaient peut-être plus orientées vers l'extérieur de l'hôpital. Et c'est dans ce contexte-là qu'ont émergé ces conversations scientifiques pour lesquelles j'ai été sollicité par le Théâtre de la Ville, par Emmanuel de Marcimota. Et je pense que cette initiative était extrêmement salutaire et utile. Et donc c'est moi qui appelais les personnes, c'est moi qui devais faire composer le numéro de téléphone. Moi j'appréhendais un petit peu finalement comment ça allait se passer, amorcer ce dialogue avec une personne qu'on ne voit pas. Et j'ai été extrêmement frappé par la facilité, la fluidité avec laquelle ça se faisait. Peut-être que le contexte le favorisait aussi, hein. Je pense que les gens étaient isolés chez eux dans une recherche de contact. Mais il y avait une capacité à livrer des détails intimes sur la manière dont se passait leur confinement, sur les paysages qu'ils avaient en face d'eux, sur ce qu'il faisait au quotidien, qui m'a étonné. Et moi-même, je me suis retrouvé à livrer des choses que je ne livre pas forcément dans mes consultations habituelles.
David Grably, vous le disiez, vous êtes neurologue. Il y avait aussi dans cette troupe qui faisait les consultations des artistes, évidemment, beaucoup, des comédiens, qui eux faisaient pas des consultations scientifiques, mais poétiques, et qui lisaient des poèmes. Sophie-Claire David, vous avez lu quoi comme poème?
Là, ça va, le spectre de poétique est assez vaste. Il y a toute la poésie traditionnelle, les grands poètes qu'on connaît des pupitres de l'école élémentaire, Victor Hugo, Prévert. Et puis on allait aussi chercher des voix contemporaines, comme un Gérard Chalian, comme des auteurs de chansons aussi. Voilà, l'intérêt c'était aussi de montrer aux gens, parce que la poésie est restée loin en arrière pour beaucoup. Il y avait aussi une culpabilité chez les gens d'avoir quitté la poésie ou de pas être sensible à ça. Et après, il y avait aussi les gens qui étaient aussi férus de poésie. Mais l'idée c'était de montrer que on pouvait accéder au poème aussi par le détour, par en effet les paroles d'une chanson ou un texte tiré ici ou là, et voilà, donner l'accès à la poésie aux gens et ouvrir une nouvelle porte.
Nathalie Béas, si vous devez appeler un inconnu au téléphone, vous lui lisez quoi comme poème?
Un poème de Rilke, je sais pas quel poème, mais un poème de Rilke, ça c'est sûr.
Et est-ce que vous vous endormez toujours comme après le collège ou le lycée avec des poèmes?
Oui, toujours, ouais. Oui.
Et en ce moment, lesquels?
En ce moment, je suis sur. C'est moins de la poésie, mais c'est Kate Tempeste. C'est une poète aussi, mais de notre temps, une anglaise.
Il est 20h sur France Culture et le quotidien est trop surréaliste parfois pour qu'on y croit. L'ordinaire ne l'est plus du tout, ce qui était stable semble flotter. Alors mieux vaut basculer du côté du poème pour au moins tenter d'aller du côté du mystère et de la beauté. Au Théâtre de la Ville au printemps s'est créée la troupe de l'imaginaire, des artistes, des scientifiques, prêts pour des consultations poétiques. On vous appelle au téléphone et on vous lit des poèmes. Et ça commence toujours par « Comment allez-vous ?». C'est devenu sur scène en ce moment un spectacle, tenir parole, comme un devoir de témoigner des vies qui, pour tenir, se sont collées à la poésie. C'est comment on tient les paroles pour tenir debout. Nathalie Béas, elle, travaille sur la chute et c'est ça qui tient le tout en vie. Son dernier spectacle s'appelait « Le bruit des arbres qui tombent » et celui-là, c'est « Aux éclats ». Tout est fragile, tout s'écroule et tout recommence et ça crée de l'imaginaire et du poème. Une chaise se déplace, une valise tombe du ciel, on parle soudain une langue différente. Le poème, on est physiquement à l'intérieur. Nathalie Béas écrit avec des trébuchements, des soulèvements, de l'humour et parfois des larmes. Beaucoup de magie aussi. Alors les solitudes s'imbriquent, d'autres vies que la nôtre nous traversent. Le quotidien surréaliste, on l'accueille et l'air de rien, on assiste même à une lévitation. sommes donc avec Nathalie Béas qui présente Aux éclats, c'est jusqu'au 8 octobre au Théâtre de la Bastille à Paris avant une tournée en France. Nous sommes avec deux membres de la troupe de l'imaginaire qui s'est créée pendant le confinement avec le Théâtre de la Ville, David Grably, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et la comédienne Sophie-Claire David. Ils ont tenu des consultations poétiques scientifiques au printemps, et maintenant c'est un spectacle avec Emmanuel de Marcimota, Tenir parole au pluriel, jusqu'au 9 octobre à l'Espace Cardin avec le Théâtre de la Ville. En ce moment à Marseille, c'est le festival Actoral qui témoigne de la diversité et de la vivacité des écritures scéniques. Le 7 octobre à Montevideo, ce sera la performance Texte et Techno par Simon Johannin et Jardin. Ils sont en studio pour nous en livrer deux extraits. C'est Tous en scène sur France Culture. On commence par prendre des nouvelles du théâtre dans le monde et ce soir, nous sommes à Mexico.
Hola a todos, mi nombre es Arcelia Ramírez, soy actriz mexicana, vivo en la Ciudad de México. Bonjour à tous, je m'appelle Arcelia Ramírez, je suis actrice mexicaine, j'habite à Mexico. Et pour répondre à la question « Comment va s'inventer le théâtre chez vous ?», je peux dire qu'ici, les théâtres ont fermé au mois de mars et à ces jours, la grande majorité ne sont toujours pas réouverts, même si certains ont repris des répétitions et préparent des spectacles. Le protocole qui est imposé est quasiment impossible à tenir. Par exemple, les salles ne doivent pas dépasser le 30% de leurs spectateurs habituels. Mais à Mexico, les théâtres indépendants sont des petites salles et il est très difficile de financer un spectacle avec les deux tiers de la salle vide. Du coup, de nombreuses salles risquent vraiment de ne pas survivre à cette crise. Cette série d'exigences limite aussi la création. La pièce ne doit pas dépasser 1h30, où les acteurs doivent maintenir au moins 1,50 m entre eux. Mais bon, il y a pire. La danse et l'opéra sont encore plus contrôlés. Alors, comme partout, pour maintenir vivant la création, il y a eu des expérimentations virtuelles, comme des lectures ou représentations par Zoom, et même des spectacles par streaming avec les acteurs dans leur décor depuis le théâtre vide qui retrouve un peu cette idée de rendez-vous amoureux des spectateurs avec une œuvre en direct. Mais je pense que ces initiatives virtuelles nous ont plutôt aidés à réfléchir, à faire un bilan de ce qui est l'essentiel de notre travail, ses urgences, ses priorités, toujours avec l'espoir de revenir très vite à la présence qui est la partie inaliénable de théâtre. Merci beaucoup.
Nathalie Béas, comment on fait s'il fallait 1m50 entre chaque comédien ? On fait pas le spectacle aux éclats.
Non, on fait pas. Non, non, impossible de travailler à distance. Enfin, dans la forme que je développe, c'est impossible. Je travaille beaucoup sur le contact, sur les accolades et les déchirements et les serments, quoi. Et donc c'est compliqué. Je pouvais pas. J'ai pas pu répéter tout ça pendant 7 mois parce que j'ai pas pu inventer d'autres histoires, en fait.
Ça a été un soulagement de se dire que c'était possible à nouveau.
C'était un bonheur de retrouver le plateau, le public et ce travail-là, quoi, qui touche beaucoup les gens, en fait. Les gens ont besoin de ça aussi, de voir, déjà de rire, hein, et de voir des choses qui se relâchent, une sorte de lâcher prise. Voilà, donc c'est important de montrer cette forme-là.
Et puis vous parlez des serments. Il y a beaucoup de solitude dans vos spectacles, mais il y a beaucoup aussi de l'idée de faire corps.
Oui.
Et de se rattraper ensemble. Et donc ce corps à corps, il est important.
Ah oui, il est essentiel. Et c'est vrai que c'est compliqué même après le spectacle, c'est-à-dire que on voit pas le public puisque le bar du théâtre est fermé et tout le monde part, et donc d'être à la sortie du théâtre et il y a personne
enfin c'est assez compliqué, ouais, de ne pas pouvoir rencontrer l'autre, même si l'heure du spectacle est très intense et on sent un public très organique, très avec, donc ça nous comble déjà. Mais on veut toujours, hein, on veut toujours les commettre de ce qui se passe pendant le spectacle. Après le spectacle, il y a tellement de choses qui se disent aussi que voilà, il y a des manques, des frustrations.
On va écouter la voix de Clément Rosset.
Il n'y a pas de jour où je ris pas. C'est un peu comme le vin. Il y a une journée sans vin est une journée sans soleil. Une journée sans rire est une journée qui se passe très mal, en tout cas. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est bon, comme la santé, comme un steak tartare quand on a faim, ou un petit peu d'eau fraîche quand on a soif. C'est-à-dire, on sent avant tout une impression biologique de soulagement, de bonheur du corps. C'est quelque chose qui, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires d'ailleurs, et sur lesquelles on pourra peut-être revenir, mais c'est quelque chose qui a certainement une vertu physiologique qui fait un bien fou. D'ailleurs, vous savez bien que un des maîtres du rire, Rabelais, était un médecin. Hein, et ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que c'est un bienfait pour le corps, n'est-ce pas? Ça se passe également par l'esprit, bien sûr. Ce n'est pas uniquement le corps qui rit, mais c'est principalement, enfin, c'est au moins, 50% le corps qui rit. C'est les tripes, oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a un petit déclenchement qui se passe dans le cerveau, me semble-t-il. Mais il y a une propagation dans le corps, et notamment aux tripes. Et il arrive que les tripes soient tellement sollicitées par le rire qu'on en arrive à avoir mal, n'est-ce pas? Et on reprend son souffle. Il me semble que ça serait une belle mort, d'ailleurs, ça, de mourir de rire.
Nathalie Béas, dans le spectacle Aux éclats, il y a une tentative de définition du rire. Au début, ce serait une belle mort, en tout cas c'est un beau risque à prendre le rire.
Oui. Oui, c'est vraiment... ce spectacle, c'est vraiment une variation autour de ça, mais à un moment donné, ça part aussi ailleurs. C'est un point de départ par rapport à mon travail qui est toujours sur un fil tendu entre tragicomique, et là j'ai voulu basculer d'un côté, mais je reviens toujours de l'autre côté, en fait. C'est comme ça, ouais, la tragédie me rattrape, mais c'est vrai que
Et au départ de ce spectacle, vous parlez d'une envie de burlesque quand même, et de la figure du clown
oui.
Qui était présente dans les débuts d'idées de ce spectacle.
Oui, c'est une dizaine de spectacles que j'ai fait, il y a à chaque fois c'est un pied de nez, c'est comme retrouver l'enfant qui est en nous. Je travaille beaucoup autour de ça, autour de l'enfant qui casse son jeu, puis qui le reconstruit, et puis qui en rigole, et puis qui avance avec ça, avec ses constructions, ses destructions. Et c'est quelque chose qui fait à chaque fois vibrer mon travail. Et j'avais envie de creuser encore plus, aller plus loin dans ces effets de... de rire malgré soi, quelqu'un qui tombe par terre parce que il est tombé sur une peau de banane, et comment ça, on bascule dans la cruauté aussi, la cruauté du rire, quoi, essayer de voir ce que ça fait physiquement aussi, le rire. Donc j'ai creusé ce chemin, mais je vais ailleurs aussi, quoi, c'est pas que là-dedans. C'est pour ça que c'est un point de départ, mais c'est... Et aux éclats, je mets point de suspension, parce que c'est pas que éclat de rire, quoi. C'est vraiment
Il y a beaucoup de choses qui se brisent.
Oui. Il y a aussi une explosion. C'est aussi mon regard aussi avec ce qui nous environne, avec notre monde, enfin, et notre relation à l'autre. Enfin, il y a des choses qui me touche, et voilà, ça ressort comme ça par un spectacle très visuel, très pictural, très physique, c'est une définition ça touche tellement de choses, en fait, ces éclats c'est des éclats intérieurs aussi, c'est pas que des éclats de rire, c'est vraiment des éclats qui Puis juste après, ce qui se passe, ça résonne différemment. Je pensais pas. Je l'ai créé juste avant le confinement. Il y a eu le confinement. Il y a eu Beyrouth. Enfin, je suis très sensible à ce qui s'est passé à Beyrouth parce que j'ai joué là-bas. J'ai été assez proche de certaines personnes de Beyrouth. Et donc, jouer ce spectacle-là, je me suis dit, mais comment je vais le percevoir, quoi? Comment la légèreté qu'il y avait il y a 7 mois va être perceptible? Est-ce que je vais... Et puis, c'est une autre vision. J'ai une autre vision du spectacle qu'il y a 7 mois. Et je sens que le public aussi a une autre vie. Enfin, rit, mais il y a autre chose derrière.
Et dans les inspirations de départ, parce que peut-être on peut en parler, mais vous parlez souvent de votre façon de travailler presque inconsciente, d'associer des choses, de tirer le fil en fait de ce qui se passe aussi en répétition.
Oui.
Dans les images de départ, vous citiez des images de salles des fêtes avec des rideaux rouges. Enfin, on a tous en tête des images comme ça. Et en même temps, une salle des fêtes vide avec un rideau comme ça, pas tout à fait bien tiré. Où il y a beaucoup de mélancolie à l'intérieur de ces images-là. Enfin, c'est avant ou après la fête. Il y a beaucoup de mélancolie. Et ça traverse aussi le spectacle, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai. Mes points de départ, ils sont très... très visuel, c'est une photo peut m'inspirer, un espace comme ça que je regarde derrière une vitre et je peux regarder longtemps un espace vide et j'y vois en fait des fantômes et c'est des fantômes que voilà je laisse entrer en moi et quand je suis en création et bien ça ressort en fait tout ce que je peux Je suis vraiment dans l'hypersensibilité des choses que j'observe autour de moi ou des moments de contemplation et je les laisse comme ça rentrer en moi et puis après en création voilà c'est là en fait c'est là et la couleur est là et dans mes valises les costumes sont là la musique, c'est plein de matières différentes que j'ai dans mes valises et que j'amène en répétition et qui sont là depuis longtemps, on va dire, sur des carnets où j'écris des histoires, des rêves, des cauchemars, des histoires que j'ai en tête ou des poèmes que j'ai lus, etc. Et tout ça, ça s'empile, mélangé aux costumes et je joue ça et on travaille là-dessus. Des fois que sur une musique, des fois que sur un costume, des fois sur un objet qui tombe et on les fait tomber 100 fois et qu'est-ce que ça provoque quoi de la terre glaise qui tombe par terre et qui explose et enfin voilà c'est chaque jour est différent dans la répétition elle peut être très narrative et à la fois complètement abstraite et très proche des arts plastiques et de la peinture en fait tout est au même niveau quand je travaille. C'est pas, il y a pas les acteurs devant et puis après arrive le décor. Non, le décor il est là tout de suite. Le costume il est là tout de suite. La musique est là aussi. Donc ils sont tous partenaires de jeu. Ils jouent tous ensemble. Quoi. L'espace est un partenaire de jeu de l'acteur autant que la musique, autant que la lumière. Enfin voilà, c'est pour moi c'est vraiment. Important que tout ça se frotte, se vibre ensemble.
D'ailleurs, là, il y a 3 comédiens qui sont incroyables, mais pas que. En effet, il y a beaucoup de... Vous parlez de fantômes, les forces invisibles, elles sont présentes parce que la matière, les objets, l'inanimé s'anime.
Oui.
Et ils sont aussi vivants presque que les comédiens.
Oui. Oui.
Je parlais de cette chaise qui bouge, qui se rapproche de nous, il y a des choses qui tombent, il y a de la fumée, il y a du liquide qui coule, enfin, tout vit, et tout est mouvant, organique, autour des 3 corps des comédiens.
Ouais, pour moi, c'est important aussi d'être dans un espace et d'écouter cet espace, d'écouter le théâtre même. Enfin, c'est aussi des questions sur le théâtre, sur comment on invente et c'est tout est à vue quoi. Et j'aime bien le côté un peu aussi fragile des choses qui peuvent à tout moment basculer et voir les ficelles de cette construction de la théâtralité qui arrive et puis on bascule dans l'onirisme et comment avec quelques éléments comme ça, un tissu, une table et puis c'est tout et puis seulement seulement des cailloux, je sais pas, seulement une coulure de peinture, pas d'acteur quoi. Il y a déjà une histoire qui se raconte seulement avec quelques éléments. C'est vraiment une matière que j'adore travailler. C'est vraiment l'espace, la matière, le corps aussi, la chair, la voix. Mais voilà, il y a pas. Et c'est vrai que les acteurs avec qui je travaille sont très disponibles pour entrer dans cet univers-là. Et accepte aussi de laisser la place à de la peinture qui coule, quoi.
David Grably, puisqu'on a un neurologue autour de la table aujourd'hui, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec Clément Rosset, le philosophe, sur l'origine, le déclenchement du rire dans le cerveau.
Ah si, je pense.
Ah
que...
d'accord, parce que je vous ai vu dire non.
Non, c'était en fait ça a fait écho aux expériences que j'ai vécues pendant les conversations scientifiques où finalement j'ai été amené à aborder beaucoup de sujets que moi je n'imposais pas aux personnes, aux appelants. Finalement, je les laissais venir vers les sujets qui les intéressaient et donc j'ai abordé beaucoup de choses autour de la mémoire, de la tristesse, du traumatisme. J'étais en train de me dire que le rire n'avait pas été abordé et que s'il avait été abordé, j'aurais été en grande difficulté pour expliquer d'où il vient. Parce que c'est un sujet que je connais mal, mais c'est très clairement une origine qui est une origine non pas neurologique, mais qui est une origine cérébrale et qui relève de l'activité du système nerveux, sans aucun doute.
Alors on va écouter Pierre Etex parler du système nerveux très particulier de Buster Keaton.
J'ai découvert Keaton en 62, donc lorsqu'il est venu à la Cinémathèque, et jusqu'alors je n'avais vu aucun film de Buster Keaton.
Mais avant 62, quelle image vous faisiez-vous de Keaton, d'après ce que vous disait votre père?
Ben, je me faisais l'image d'un comique, enfin de ce qu'il était, parce que mon père m'en parlait fort bien. Il me disait qu'il avait des gags extraordinaires et qu'il était doublé d'un acrobate et d'un acteur prodigieux, ce qui est vrai. Il y avait une espèce d'autonomie dans tout ça. Enfin, c'est monolithique. Il y a le côté scénariste, interprète et metteur en scène qui sont complètement indissociables. Et je crois que c'est la perfection dans le genre. Parce que le comique est une chose extrêmement fragile et il ne s'est jamais appuyé, si vous voulez, complètement sur sa personnalité comique. Et c'est pour ça qu'elle est d'autant plus forte. Il a soigné le gag formidablement, la mise en scène formidablement et le rythme interne d'un scénario pour qu'il n'y ait jamais de temps mort, pour que tout soit brillant. Et c'est un supplément, si je puis dire, qu'il nous offre par sa personnalité comique. Et cette faculté de concentration qu'il avait sur les choses, parce qu'il a fait beaucoup de musicals, cette faculté de concentration est évidente dans tous ses films. Et c'est ce qui fait l'objet même de son comique. C'est-à-dire que, ça je m'en faisais assez bien l'idée à travers ce que mon père me disait. Il me disait, il était toujours imperturbable devant l'adversité. Et c'est de là que naissait le comique. Et un jour, quand on a demandé à Keaton pourquoi il était comme ça, qu'il ne riait jamais, puisqu'il y avait ce slogan imbécile, l'homme qui ne rit jamais, etc., comme si c'était la clé, il disait, je n'ai pas le temps de rire, je suis trop concentré sur ce que j'ai à faire.
J'aimais bien, Nathalie Béas, cette définition imperturbable devant l'adversité. Dans votre spectacle, Aux éclats, il y a beaucoup d'adversité et il y a beaucoup de... Ils ne sont pas imperturbables, mais en tout cas, ils sautent les obstacles.
Oui. Oui. Ça, c'est aussi une marque de fabrique, on va dire. C'est toujours avancer malgré l'obstacle et jamais... Ouais, jamais.
Parce que les éléments se déchaînent quand même.
Oui.
À un moment.
Ouais, ça se déchaîne bien, ouais. Mais il faut continuer en fait. Mais comme dans la vie, il faut continuer à avancer malgré la tempête. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de voir. Enfin, c'est des métaphores en fait. Mon travail de création, souvent, c'est une métaphore de ma vision aussi du monde. Comment on peut avancer malgré tout ce qu'on nous met dans les pattes et avancer avec le sourire et avec légèreté.
et en même temps sans gommer, vous parlez souvent de vulnérabilité, de fragilité, oui. Sans gommer cette partie-là.
Non, vivre avec et presque l'imposer. Imposer sa fragilité, imposer sa difficulté, des fois à exprimer les choses, des fois à être avec l'autre. Enfin, voilà, dans le spectacle, justement, il y a toujours ce un peu, c'est un trio, donc des fois il y a une complicité, enfin, entre deux, et puis moins entre la troisième personne, et donc ça m'intéresse bien beaucoup aussi cette chose-là entre la complication en fait, la complexité en fait des rapports humains.
Et vous parliez de l'attrait pictural, en tout cas ce soin que vous avez aux images. Vous, à Angers, vous avez fait les Beaux-Arts. Et après, je crois que vous parlez souvent de cette école où vous êtes allée en Allemagne et où on vous a parlé de Marina Abramović.
Oui.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre regard, dans votre parcours?
En fait, je faisais plutôt de la photo, de la vidéo. Aux Beaux-Arts, et puis je suis partie en Allemagne, c'était une sorte d'échange, on devait travailler avec des étudiants d'une école à Braunschweig, qui était dirigée par Marina Abramović, il y avait aussi de la danse buto, etc. Parce qu'en Allemagne, dans les Beaux-Arts en Allemagne, il y a Spiel und Bühne, il y a jeu et scène. En France, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette idée de performance et on est vraiment sur les arts plastiques, les arts visuels, etc. Mais le corps n'est pas, je ne sais pas, peut-être maintenant dans les Beaux-Arts, ça vient petit à petit, quoi. Mais bon, et donc, cette découverte de la performance en Allemagne m'a bouleversé mon travail de plasticienne. C'était plus en bifrontalité ou enfin sur un plan, quoi. Mon corps était présent, il y avait la chair qui était là, quoi. Je suis devenue performeuse là-bas et j'étais là, ouais, je me fais des bleus, je tombe par terre et on peut créer des choses avec son corps et donc ça a fait évoluer mon travail de plasticienne et je me suis mis en j'ai fait de la performance après, quoi. Donc je trouve que cette rencontre entre le corps et l'art visuel est passionnant. Et voilà, donc maintenant, enfin, quand je crée, je pense même pas à ça, quoi. Ça fait partie vraiment de mon langage. J'ai pas une partie dansée ou une partie théâtrale ou une partie art plastique. C'est mon langage, c'est-à-dire c'est un mélange de tout ça, quoi. C'est de la peinture, c'est de la peinture visuelle, c'est de la poésie sonore aussi théâtrale. Enfin, c'est tout ça en même temps, quoi.
Ce n'est plus rien des mots sortis de ce rond-point, au centre duquel nos têtes tournaient l'une autour de l'autre. Cette chancelante ivresse de si peu de printemps. Boire était facile, aimer devait s'apprendre. J'ai mélangé le noir de tous ces ciels qui nous ont vus se pencher l'un sur l'autre.
C'était un extrait dans sa voix du recueil de poèmes « Nous sommes maintenant nos êtres chers » de Simon Johannin qui sortira le 8 octobre aux éditions Alia. Et en attendant, Simon Johannin sera au Festival Actoral le 7 octobre pour une lecture électrifiée d'extraits de son roman « Nino dans la nuit » écrit avec Capucine Johannin. Les mots ont trouvé une scène accompagnée du musicien Jardin et ça s'appelle « Texte et techno ». Simon Johannin, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça modifie de tout à coup d'arriver sur une scène devant un public avec ces mots qui étaient de la littérature au départ ?
En fait, je pense que n'importe quel écrivain est amené à lire ses textes, et c'est un exercice qui est, enfin, c'est pas notre métier en fait, tout simplement. Et moi, j'ai toujours eu à la fois peur de ça, et je me suis toujours beaucoup ennuyé pendant les lectures des autres. Je suis pas du tout réceptif à l'oralité d'un texte qui est fait pour être lu soi-même, et donc très vite j'ai été amené à me poser la question de comment faire pour rendre les lectures intéressantes, tout simplement, quoi. Et il se trouve que Nino, il y a déjà une oralité dans le texte lui-même, donc le lire tout seul, moi je trouvais que ça manquait de force parce que j'ai pas une voix qui est, c'est pas mon travail. Et en fait, Jardin m'a demandé des textes pour créer un morceau. Il a créé un morceau à partir de poèmes qui sont dans le recueil. À l'époque, il n'y avait pas de projet de recueil spécifique. Et en fait, c'est des histoires de rencontres et de contexte. On m'a proposé de faire une lecture dans le cadre du festival Extra au Centre Pompidou. Je voulais pas la faire tout seul. On m'a dit, tu voudrais la faire avec un musicien. Je dis oui, ça serait super. À qui tu penses, à Jardin? Et puis voilà, en fait, on s'y est mis tout de suite. On est monté sur scène et on s'est vu, je pense, une demi-heure avant. On a choisi des morceaux. On a essayé de faire un filage et puis c'est né comme ça, tout simplement, quoi. De manière complètement organique.
Et c'est quoi une lecture intense? Parce que c'est ça qui est annoncé.
Ouais, je pense que c'est déjà une manière de prévenir le public du volume sonore avec lequel on travaille, qui est pas forcément adapté à toutes les oreilles. Voilà. Enfin, en tout cas, je pense qu'on est dans une énergie assez industrielle qui vient autant de la musique de Jardin que de mon rapport au texte. Je pense qu'on aime bien être dans quelque chose d'un peu brut, enfin pas brutal. Le but c'est tout comme toujours d'être dans une recherche poétique et de d'être dans un échange avec les autres. On n'est pas là pour choquer qui que ce soit, mais on aime bien lâcher les chevaux, quoi.
Et les premiers chevaux qui vont être lâchés maintenant, c'est
du coup un petit extrait de ce qu'on va présenter à Actoral. Alors là, on l'a vraiment adapté pour le petit format
pour l'émission.
Donc ça va être à la fois des extraits de Nino et à la fois des extraits du recueil et à la fois la voix de Jardin sur des poèmes en chanson.
On y va?
Ouais. Nous sommes Simon Johannin et Jardin. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charron. Dans le métro, ta tête sur mon épaule, tu fermes les yeux en attendant la fin de la ligne. Moi, j'essaye de lire les affiches, mais j'y arrive pas parce que les vitres avancent trop vite. C'est le premier métro. Un de ceux où c'est pas trop un problème de s'affaler quand on n'a pas dormi. Je t'embrasse quand on arrive, puis on fuit la touille d'hiver de la rame et les couloirs aux odeurs de pisse froide. Une fois à l'air libre, il nous reste plus qu'à marcher, accrochés l'un à l'autre, sur le trottoir rapiécé dont on évite les trous. On dépasse les dépôts d'ordures, les arbres pâtés propres, et les épaves de camionnettes sans moteur où dorment des gens qui ont pas mis où dormir. Il y a des pigeons en haut qui volent et les rats en bas qui galopent. Des vieux qui sortent méthodiquement les sacs plastiques des poubelles pour les éventrer et voir s'il n'y a rien à prendre dedans. Ça fait des trottoirs sales, mais c'est pas moi que ça dérange. Ce qui m'emmerde, c'est d'avoir la gueule collée à ce qui nous attend si on n'a pas mieux qui tombe. Et puis j'oublie, parce que tu me dis que tu m'aimes, et avec ça, misère ou pas, je te suis à l'arrière de toutes les camionnettes déglinguées du monde. Une fois monté chez nous, le four allumé et ton corps nu sous les couvertures, je roule un dernier joint au son des voisins du dessous qui s'engueulent à trois, lui, elle et le bébé qui hurle. Ma tête me chuchote que dans la vie, bordel, on n'est pas obligé de faire des gosses. Je sens ta bouche sur mon corps, je me laisse tomber pendant que la fumée monte et que toi tu descends. Je te retourne sur le dos pour couvrir l'engueulade d'en dessous, puisqu'on préférera toujours nos cris au leur. Je meurs, donne mes livres aux amis, mes vêtements aux pauvres, ma mémoire aux enfants, mais garde les bijoux, car mon âme amoureuse sera noyée dans l'or.
Dans quel monde nous vivons est une question importante pour moi. Il m'est primordial, par exemple, de jouer avec les choses de la vie quotidienne, de les toucher, que les danseurs n'hésitent pas à les prendre en main. Sur scène, tout cela prend un relief saisissant, et devient différent de ce que l'on voit à l'extérieur. Et pourtant, ce n'est rien d'autre que cette réalité-là.
La voix de Pina Bausch et cette question de comment on relie le quotidien et le poème, elle a été très forte au printemps pour vous, David Grably. Donc vous êtes neurologue mais acteur malgré vous, c'est ce que vous disiez en entrant dans le studio. Et Sophie Claire David, vous êtes comédienne, vous avez tous les deux participé à cette grande consultation poétique, scientifique, à tous ces coups de fil qui ont été donnés au printemps. En quoi le poème et la poésie, Sophie Claire David, à ce moment-là, peut-être recoller un peu les solitudes. Enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, ces consultations d'abord, peut-être?
Ben nous, ça nous a reconnecté en effet à des textes qu'on avait aussi oubliés, parce que avant de restituer un poème, il faut aussi retrouver sa vibration intérieure aussi en nous avant de pouvoir le passer aux gens. Donc nous, on s'est nourri de ça aussi. Ça a été notre lien entre nous, puisque nous étions aussi séparés, tous les docteurs en poésie, consultants en poétique. Ça a permis de faire résonner des textes sur cette période, en effet, suspendue. Mais la poésie, elle est aussi intervenue dans l'échange qu'on avait avec les gens, parce qu'il y avait... On n'arrivait pas en disant « on va vous lire un poème ». Voilà. Il faut savoir aussi qu'on a eu des gens au téléphone qui s'étaient inscrits, mais d'autres aussi pour qui c'était une surprise, qui étaient inscrits par d'autres. Donc parfois, ça créait des situations un peu délicates, puisqu'on arrivait en disant « voilà, on est là pour vous lire un poème », puisqu'on parle de ce principe, cette quête que disait Pessoa, voilà, savoir que l'art peut sauver de tous les maux, un poème peut... nous soulager. Alors les gens nous répondaient oui, mais moi je vais très bien. Il n'y a pas de souci, on va vous juste vous donner un complément alimentaire à votre joie de vivre, hein. La poésie n'est pas que pour les dépressifs. Et à partir de là, voilà, tout ça pour dire que l'échange était aussi hyper poétique avec les gens, les mots qui ressortaient d'eux, qu'on, selon le docteur en poésie, moi je notais ce que me disaient les gens pour garder une trace, ces traces qu'on a d'ailleurs finalement utilisé
pour le spectacle.
Pour le spectacle, exactement, puisqu'on faisait des retours d'expérience ensemble, qu'on partageait dans un groupe WhatsApp, en respectant, il y a le secret médical, mais du coup le secret poétique, donc on ne révélait pas le nom des gens, d'où ils venaient, tout ça. On essayait de neutraliser un peu, rendre neutre un peu tout ça. Et à partir de ces vécus, de ces récits, on a eu envie, en effet, d'ouvrir... le théâtre, quand ça a été permis de le faire, d'abord en juin, le 22 juin, avec une veillée, avec ces traces d'échanges, de consultés, mais une veillée aussi pour saluer les gens qui étaient disparus aussi, comme ce que font nos frères du continent africain, qui prennent le temps aussi de saluer les gens qui partent, mais pas que les gens morts du Covid aussi, parce qu'on a eu plein, quand on a des gens au téléphone. Il y avait aussi tous les dommages collatéraux dont d'ailleurs peut témoigner David du Covid. Il y a des gens qui n'ont pas pu, par exemple, à la Salpêtrière bénéficier d'une opération d'une tumeur, par exemple, et qui n'ont donc 2 ans de vie en moins, en fait. Et voilà, tout ça, on a voulu le porter ouvrir le théâtre différemment en juin. Et là, ce qui est un peu différent aujourd'hui, c'est encore une nouvelle étape, puisque c'est une grande évolution, c'est une grande transformation, une grande mutation que ces consultations poétiques, parce que ça remonte à 15 ans en arrière, en réalité, quand Emmanuel de Marcimota était d'abord arrivé à la direction du théâtre de Reims. À l'époque, pour donner un nouveau souffle, à la ville, au théâtre, il envoyait sa jeune troupe affubler les comédiens affublés de petites
dans l'espace public, en fait.
Dans l'espace public total.
Faire des consultations poétiques.
Exactement.
Voilà, comme ça en rencontrant les gens.
Ça a commencé sur des quais de gare, dans les bibliothèques, dans les cafés. L'idée, c'était de faire venir le théâtre. Les spectateurs viennent au théâtre, mais là, c'est le théâtre qui vient non plus vers des spectateurs, mais vers la population. Et donc les comédiens étaient là avec leur petite blouse blanche derrière une table à attendre celui qui aurait le courage de s'asseoir en face. Et en fonction de l'échange, en effet, on commence toujours par une question. Les gens sont un peu hésitants. Bah, comment vous allez aujourd'hui? Ça peut commencer juste comme ça. Ou comment vous êtes réveillé ce matin? Ou qu'est-ce que vous avez envie de partager? Voilà, la question, c'est les questions sont. Ça permet d'ouvrir les portes de l'âme, quoi. Et en fonction, en effet, de comment les gens nous ouvrent des portes, on va aller chercher une fenêtre poétique. On va aller convoquer les acteurs et les auteurs surtout qui sont derrière la porte et qui veulent entrer et donner leur parole.
Et c'est vrai que c'est important de dire qu'au tout départ, ces consultations poétiques, c'était quand même un échange. C'était en présence. C'était
complètement.
Et là, ça s'est transformé,
voilà.
Parce qu'il a voulu relancer ça, Emmanuel de Martimota. Il y a eu le confinement et du coup, ça s'est transformé par des coups de téléphone. Mais au départ, il y a quand même les corps qui sont ensemble et une vraie rencontre.
Ah, c'était ça et c'était assez visionnaire quelque part, malheureusement, parce qu'en fait, il a voulu reprendre cette aventure. On l'a reprise à l'automne. L'idée, c'était de faire ça dans un centre commercial à Paris, Italie 2. Et donc, de répandre de la poésie dans ce lieu apoétique au possible, qui est le lieu de désœuvrement, dans le sens absence d'œuvre d'art total. Et comment, voilà, on peut là-dedans accéder voilà, à des gens auxquels on n'aurait pas accès aussi. Et en fait, à l'automne, au moment du printemps, on devait réintervenir et arriver le Covid, et on a décidé de transformer cette aventure qui existait déjà, qui était déjà forte de son expérience, de l'adapter par téléphone. Et c'était une réelle joie parce qu'il se passe des choses très fortes juste avec la voix, avec ce bout du fil. On a eu des livraisons, voilà, de récits, de confidences, de partages. Parfois, on est nous-mêmes ébranlés aussi par ce qui nous est raconté. Il y a une vibration poétique dans l'échange. Et puis après, il y a ce moment où on se dit, enfin moi, en tous les cas, je me disais, attendez, arrêtez-vous là. Maintenant, je sais ce que je vais vous lire. Alors parfois, on est plus ou moins gourmand. On va lire 2-3 poèmes parce que l'idée, c'est que ça touche la personne. À son endroit, et puis parfois il y a des poèmes détours aussi, hein. c'est pas un remède magique.
Il y a aussi beaucoup de langues, parce qu'il faut dire que la troupe s'est élargie, il y a eu énormément de, je crois, une vingtaine de langues utilisées. Il y a aussi des enfants qu'on a appelés, des plus jeunes, des poèmes échangés avec voilà, des gens qui avaient 10 ans, 12 ans.
Ouais, de 7 à 99 ans. L'idée, en fait,
tout
au
ça,
début...
Parce que toutes ces voix sont présentes maintenant dans le spectacle, tenir parole.
Tout à fait, ça, au bout de 3 semaines, on a voulu en effet élargir au monde, en fait, pas juste rester cloîtré en France, mais le téléphone permettait en fait justement de plus rester bloqué dans un centre commercial, mais d'accéder. Voilà, on a eu des gens de Berlin, d'Afrique. Alors c'est pas moi, mais parce que je parle pas Wolof, mais de Taïwan, de partout en fait, de New York, de Londres.
Et puis des scientifiques.
Et des scientifiques. Truc. Après, les scientifiques sont arrivés en effet, et on s'est tous retrouvés dans des zooms à échanger en effet sur comment.
David Grably, comment vous avez été initié aux consultations?
Non, j'ai été initié aux consultations poétiques. Hein. Indépendamment de mon engagement dans les consultations scientifiques d'abord, donc je pense que c'est important de le souligner, ça répondait vraiment à une aspiration particulière qui n'était, je pense, absolument plus satisfaite au moment, dans cette période de confinement. Alors moi, j'étais pas vraiment confiné puisque j'ai continué à exercer mon activité à l'hôpital, mais finalement la pensée était très calibrée, très orientée sur très petit nombre de sujets, très monothématiques. Et c'est vrai que ces consultations poétiques, elles ont permis d'élargir considérablement le champ et d'aller vers d'autres types de contacts. On parlait de corps à corps dans le théâtre. Il y a eu vraiment le voix à voix de la consultation poétique. J'ai trouvé que c'était extrêmement émouvant, extrêmement riche, alors même que j'étais pas la frange de la population qui était la plus isolée du fait de mon activité. Et en effet, la participation aux consultations scientifiques, elle est venue dans un deuxième temps, à travers des rencontres, à travers les rencontres avec une neurochirurgienne qui est le professeur Karine Karachi, qui avait eu des interactions depuis très longtemps avec Emmanuel de Marcimota sur la manière de faire rentrer la culture et le théâtre en particulier dans le soin. Et elle m'a sollicité, mis en contact avec Emmanuel de Marcimota qui m'a exposé ce projet tel que vous venez de le raconter, les consultations poétiques en présentiel, la bascule sur le téléphone, et l'idée effectivement de faire exploser les cadres à travers cette possibilité donc d'aller vers des langues étrangères et aussi vers d'autres disciplines, avec l'idée que la culture, c'est l'art, mais pas seulement l'art, c'est aussi les sciences, c'est aussi le soin, c'est aussi l'écologie, c'est aussi la ville. Et c'est dans ce contexte que j'ai intégré l'équipe, la troupe du Théâtre de la Ville pour amorcer, pour initier ces consultations scientifiques dans mon domaine qui était les neurosciences.
Et donc vous parliez du cerveau et de vos recherches aux personnes que vous appeliez.
Alors ça a été un sujet effectivement que j'ai eu du mal à trancher. C'était finalement, est-ce que je devais moi orienter les sujets qui allaient être abordés pendant ces consultations en fonction de mes domaines d'expertise et de ce dont je souhaitais parler. Et en réalité, les choses ne se sont pas passées de cette manière-là, c'est-à-dire que dans cette phase initiale de prise de contact, de « comment allez-vous ? Comment ça se passe pour vous ? Qu'est-ce qui vous intéresse ?», j'ai laissé les appelants venir au sujet qui les intéressait. Alors, en essayant quand même de recentrer les choses quand je sentais que ça partait dans des directions que j'étais incapable de traiter, on a parlé du rire tout à l'heure, j'aurais été bien en difficulté s'il avait fallu aborder ces sujets, mais finalement en essayant de trouver un moyen terme entre ce dont moi j'étais capable de parler avec suffisamment de précision pour apporter quelque chose et pour amorcer une véritable conversation scientifique, pour être un passeur de connaissances, et également pour répondre aux attentes de la personne qui appelait. Donc il y avait un vrai dialogue. Enfin, c'était pas quelque chose qui était unidirectionnel où moi j'imposais ma manière de voir les choses, mes sujets, mes idées. C'était d'essayer de trouver un terrain d'entente commun qui permettait de laisser s'élaborer, se mettre en place un véritable dialogue et une véritable conversation.
Et dans le spectacle Tenir Parole qui existe aujourd'hui, il y a donc les paroles, en tout cas des bribes d'échanges avec les consultés. Il y a les poèmes qui sont là aussi. Et puis, il y a des paroles de neurochirurgiens, de scientifiques, de neurologues. Vous parliez de Karine Karachi. Il y a un moment, je lis juste trois phrases d'un texte. Le cerveau reconnaît les émotions du visage de l'autre de manière globale avec des signaux très importants venant des yeux, surtout dans la reconnaissance de peur et aussi de la bouche, surtout pour la joie. On parle aussi du cerveau et de la façon de la rencontre, de comment tout ça marche. Enfin, c'est très présent aussi dans le spectacle aujourd'hui, ces conversations scientifiques.
Je pense que c'est un des... En même temps, c'est quelque chose qu'on savait déjà, hein, que la forme théâtrale était très adaptée pour faire passer des choses qui relèvent de parfois de concepts scientifiques très élaborés. Moi, je suis venu à la neurologie et aux neurosciences à travers Oliver Sacks et à travers Peter Brook, et c'est une réalité. C'est en allant voir le spectacle L'Homme qui avait été adapté de L'Homme qui prenait sa femme pour un chapeau, que l'idée de devenir neurologue, alors j'étais jeune étudiant en médecine à l'époque et je savais pas très bien vers quoi j'allais me diriger, a vraiment émergé comme une possibilité forte. Donc je suis très convaincu que la forme théâtrale est extrêmement puissante pour amener une dimension narrative, une dimension de récit qui permet de faire passer des concepts scientifiques et peut-être de sensibiliser un public très large à ce qui peut faire le questionnement de la recherche, à ce qui peut faire aussi la beauté de la connaissance du cerveau, de son fonctionnement, et aussi peut-être de mettre en avant les doutes qu'on peut avoir, les situations où on est dans l'ignorance. Le théâtre permet ça, le théâtre permet aussi le dialogue, permet aussi de confronter les points de vue, hein, peut-être plus facilement que quand on est face à un écrit un peu aride. Ça permet de faire exprimer des voix qui sont des voix différentes, enfin au sens propre du terme, qui vont exprimer des opinions différentes. Et je trouve ça extrêmement riche et intéressant que peut-être qu'à l'occasion de cet événement et de cette période très particulière, très difficile, très traumatisante qu'a été le confinement dans le contexte de la pandémie Covid, on puisse voir émerger des collaborations plus fortes entre les champs de la culture et du théâtre en particulier et celui dans lequel j'exerce moi, qui est le champ du soin et également le champ de la science.
David Grably, après avoir vu L'Homme qui, mis en scène par Peter Brook, vous êtes allé vers la neurologie, vous auriez pu aller vers la scène ?
Ça fait partie des regrets que je peux avoir, c'est effectivement la question de la mise en scène et de la possibilité de pouvoir travailler sur du matériau, mais peut-être finalement du matériau qui aurait été du matériau lié à mes centres d'intérêt scientifiques et soignants. C'est effectivement peut-être un petit regret que j'ai encore.
C'est peut-être encore possible.
Peut-être, il y a des expériences intéressantes, peut-être qu'effectivement, avec ce qui se développe grâce au Théâtre de la Ville, Emmanuel de Marcy-Motta, peut-être que le fait de travailler avec les étudiants en médecine, de travailler sur... alors, il y a plein d'aspects, de travailler sur les expériences qu'ils vivent et qui sont des expériences... Alors là, pour le coup, difficiles, pour lesquelles il n'y a pas forcément d'espace de parole très simple. C'est compliqué quand on est jeune médecin en formation... de faire part de ses doutes, de faire part de ses angoisses, de faire part de comment est-ce qu'on ce qu'on reçoit comme souffrance, parce que ça c'est une réalité, on reçoit de la souffrance, c'est quelque chose qui est très difficile, il y a peu d'espace pour ça, et je pense que la forme théâtrale elle permet de le faire, la forme théâtrale elle permet de recueillir ces paroles, peut-être de les travailler, donc de les mettre à distance en les travaillant, en les rendant presque littéraires, et le fait de les faire jouer ou de les faire mettre en scène est une manière de les rendre audibles aux autres en étant dans une forme qui est une forme qui est distanciée par rapport à ses propres affects. Et donc c'est peut-être des choses vers lesquelles on pourrait aller en travaillant avec des étudiants en médecine, le Théâtre de la Ville ou d'autres théâtres.
Sophie Claire David, j'avais préparé quelques poèmes qui faisaient partie du spectacle Tenir Parole et des consultations poétiques, et vous m'avez dit non, mais j'en ai prévu un, c'est une surprise.
Exactement. C'est un poème, je pense, parce que j'ai pas mis ma petite blouse de docteur en poésie aujourd'hui, mais je suis venue comme consultante poétique, et donc je joue le jeu jusqu'au bout, et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait faire écho à cette réunion des personnes qui sont dans cette salle, et par rapport au spectacle Tenir Parole, pour moi ce texte il fait écho à ce qu'on a tenté de faire au téléphone et ce qu'on essaie de tenter de faire aussi sur le plateau. C'est quelque chose qui est en transformation et toujours en création. Et je l'ai lu 3 fois pendant le confinement. J'ai eu 225 personnes au téléphone pendant le confinement. Et donc j'y vais, je vous dirai à la fin de qui est ce texte. Des arbres qui tombent et l'homme qui tombe. Le bruit qu'on n'entend pas, ou qu'on ne veut pas entendre. 4 personnes, peut-être d'une même famille, d'une même fratrie. Ils viennent nous raconter chacun leur tour, un souvenir, une histoire, leur histoire. Ils deviennent métaphores. Les autres sont comme les passeurs, comme des âmes fantômes. Ils accompagnent son récit. Ils le portent, ils l'empêchent, ils l'éclaboussent. Et ce rectangle noir, cette ombre, cette masse qui nous étouffe, ce reflet qui nous illumine, tout s'oppose et tout s'accorde. Chercher l'origine, des histoires intimes qui en deviennent une et une seule, raconter la même chose, toujours la même chose, creuser toujours son trou pour trouver un trésor, ne jamais trouver mais s'amuser à aller de plus en plus loin, avoir de la terre sous les ongles, dans sa chair, ouvrir les portes, de l'autre côté de la couleur, de l'autre côté du rideau. Regarder les mouvements, les déplacements avec un regard d'enfant et sentir les vibrations invisibles, comme si on tournait les pages d'un recueil de nouvelles. Chaque nouvelle nous questionne sur l'humain, sur sa place, rendre l'espace palpable, sensible, mettre du dehors à l'intérieur, mettre du paysage partout. Se rouler jusqu'à l'épuisement et laisser place aux larmes. Le bruit des arbres qui tombent, Nathalie Béas, 2017.
Nathalie Béas, c'était le titre, un texte du précédent spectacle, Le bruit des arbres qui tombent, et je vous voyais très émue en l'écoutant.
Bah oui, c'est une surprise. C'est très très bizarre. Ouais, les 2 premières phrases, je me suis dit mais d'où ça vient ? Enfin, ça me dit quelque chose et plus ça rentrait dedans. Non, c'est des choses qu'on écrit pour parler d'un spectacle et de l'entendre lu là comme ça me touche beaucoup. Ouais. Ça me touche.
On va continuer dans le poème et se retourner vers Simon Johannin et Jardin pour un deuxième extrait de la lecture musicale qui aura lieu donc à Actoral le 7 octobre prochain. Et ça s'appellera Texte et Techno.
1000 chevaux lancés, les sabots rougis par ton sang. Une prairie fendue par les cloches d'un tramway quand dans ta robe tu glisses. Je vois trop souvent ta peau cherchant de la chaleur contre celle du danger. J'ai bientôt 18 ans et les petits cachets blancs font fondre un peu de coton sous la langue.
Les ongles vernis plus rongés, et toutes ces dents, les unes contre les autres. En centre, comme des mains sur des hanches, ou d'autres mains sur d'autres hanches. Do you like drugs? Yeah, me. Do you like drugs? Yeah, me too. Do you like drugs? Oh, yeah, me too. Do you like drugs? J'en aurais bouffé de l'extase. Des cœurs jaunes et des crânes gris. Des Rolex étincelantes. Des petits diables noirs et des marques de luxe. J'ai fini par mourir sous les coups d'un désir qui m'accable. Comme une dalle coulée sous mon dos. Comme une dalle coulée sous mon dos. Comme une dalle coulée sous mon dos. Yeah, me too. Do you like drugs?
Nathalie Béas, vous dites imbriquer les spectacles comme on construit une maison. Elle en est où la maison? Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces encore à construire? Il y a combien d'étages? Est-ce que le socle est bien solide?
Oui, c'est le toit, il est encore pas... Le socle, il est solide.
Le toit est ouvert,
ouais. Des fois, le toit, il s'ouvre et des fois, il retombe, mais il est encore ouvert, ouais. Ouais.
Comme ça, on voit le ciel.
Oui. Exactement. Les étoiles.
I'm looking for you in the woods tonight. I'm looking for you in my flashlight. I'm searching from in the heart. Your dime made urgent. And I pace myself in racing.
On a commencé par un détour par le Mexique. On a poursuivi à l'intérieur du poème pour le coller au quotidien d'aujourd'hui. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, et merci à la technique ce soir, à Jason Taous et Pierrick Charles. J'avais aussi prévu de finir avec les mots de Nathalie Béas, maître du paysage partout, se rouler dedans jusqu'à l'épuisement et laisser place aux larmes. Il sera bientôt 21h, vous écoutez France Culture, et c'est l'heure de la fiction.